L'homme marchandise. À travers la personne de l'ouvrier, se manifeste de manière subjective le fait que le capital est l'homme qui s'est complètement perdu lui-même. Comme dans le capital se manifeste de manière subjective le fait que le travail est l'homme qui s'est complètement perdu lui-même. Mais l'ouvrier a le malheur d'être un capital vivant, qui a donc des besoins et qui, à chaque instant qu'il ne travaille pas, perd ses intérêts et, de fait, son existence. En tant que capital, la valeur de l'ouvrier monte selon la demande et l'offre. Même physiquement, son existence, sa vie, sont considérées, chacun le sait, comme une offre de marchandise, analogue à toute autre marchandise. L'ouvrier produit le capital le produit. Il se produit donc lui-même. Et l'homme, en tant qu'ouvrier, en tant que marchandise, est le produit de tout le mouvement. Pour l'homme qui n'est plus qu'ouvrier, et en tant qu'ouvrier, ses qualités d'homme ne sont là que dans la mesure où elles sont là pour le capital qui lui est étranger. Mais comme le capital et l'homme sont étrangers l'un à l'autre, donc sont dans un rapport indifférent, extérieur et contingent, ce caractère étranger doit aussi apparaître comme réel. Donc dès que le capital s'avise, que l'idée soit nécessaire ou arbitraire, de ne plus exister pour l'ouvrier, celui-ci n'existe plus pour lui-même. Il n'a pas de travail, donc pas de salaire, et comme il n'a pas d'existence en tant qu'homme, mais en tant qu'ouvrier, il n'a plus qu'à se faire enterrer, à mourir de faim, etc. L'ouvrier n'existe comme ouvrier qu'à partir du moment où il existe pour soi en tant que capital. Et il n'existe en tant que capital qu'à partir du moment où un capital existe pour lui. L'existence du capital est son existence, sa vie, et celui-ci détermine le contenu de sa vie, d'une manière qui lui est indifférente. L'économie politique ne connaît donc pas l'ouvrier sans emploi, l'homme de travail, lorsqu'il se trouve en dehors de cette sphère des rapports de travail. Le coquin, l'escroc, le mendiant, le travailleur sans emploi qui meurt de faim, qui est misérable et criminel, sont des personnages qui n'existent pas pour elle, mais seulement pour d'autres yeux, pour ceux du médecin, du juge, du fossoyeur et du prévôt des mendiants, etc. Hors du domaine de l'économie, ce sont des fantômes. Les besoins de l'ouvrier ne sont donc pour l'économie que le besoin de l'entretenir pendant le travail, et seulement dans le but d'empêcher que la race des ouvriers ne s'éteigne. Le salaire a donc la même signification que l'entretien, le maintien en ordre de marche de tout autre outil de production, que la consommation du capital en général, dont celui-ci a besoin pour se reproduire avec intérêt, que l'huile que l'on verse sur les rouages pour les maintenir en mouvement. Le salaire fait donc partie des frais nécessaires du capital et du capitaliste et ne doit pas dépasser le seuil imposé par cette nécessité. Les industriels anglais avaient donc une attitude conséquente lorsque, avant l'amendement de 1834, ils déduisaient du salaire de l'ouvrier les aumônes publiques que celui-ci recevait par l'intermédiaire de la taxe des pauvres et les considéraient comme une partie intégrante de la rémunération. La production ne produit pas l'homme seulement en tant que marchandise, marchandise humaine, homme défini comme marchandise. Elle le produit, conformément à cette définition, comme un être déshumanisé, aussi bien intellectuellement que physiquement. Immoralité, dégénérescence, abrutissement des ouvriers et des capitalistes. Son produit et la marchandise douée d'une conscience de soi et d'une activité autonome, la marchandise humaine. Le grand progrès qu'ont réalisé Ricardo, Mill, etc., par rapport à Smith et à Say, c'est qu'ils déclarent l'existence de l'homme, la productivité humaine plus ou moins grande de la marchandise, indifférente et même nuisible. Le but véritable de la production ne serait pas le nombre des ouvriers qu'un capital entretient, mais le niveau des intérêts qu'il rapporte, la somme des économies annuelles. L'économie politique anglaise moderne a réalisé également un grand progrès lorsque, tout en faisant du travail le principe unique de l'économie, elle a expliqué, avec une grande clarté, que le salaire et les intérêts du capital sont en rapport inverse l'un de l'autre et que, généralement, le capitaliste ne pouvait gagner qu'en comprimant le salaire et réciproquement. Ce n'est pas l'exploitation du consommateur, mais le fait pour le capitaliste et l'ouvrier de chercher à s'exploiter réciproquement qui, selon elle, est le rapport normal. Le rapport de la propriété privée implique, de façon latente, le rapport de la propriété privée en tant que travail, ainsi que le rapport de celle-ci en tant que capital et la relation réciproque de l'un à l'autre. C'est, d'une part, la production de l'activité humaine en tant que travail, c'est-à-dire en tant qu'activité totalement étrangère à elle-même, à l'homme et à la nature, donc à la conscience et à la manifestation de la vie, l'existence abstraite de l'homme, conçue seulement en tant que travailleur, qui peut donc chaque jour être précipité de son néant comblé dans le néant absolu, dans sa non-existence sociale et par conséquent réelle. C'est, d'autre part, la production de l'objet de l'activité humaine en tant que capital, où toute détermination naturelle et sociale de l'objet est effacée, où la propriété privée a perdu sa qualité naturelle et sociale. Ouvrez la parenthèse, elle a donc perdu toutes les illusions politiques et sociales, et elle n'est plus mêlée à aucune situation apparemment humaine. Fermez la parenthèse. Ou, aussi, le même capital reste le même dans l'existence naturelle et sociale la plus diverse, où il est tout à fait indifférent à son contenu réel. Cette opposition poussée à son comble constitue nécessairement l'expression dernière, le sommet et la fin de tout le rapport de la propriété privée. Ainsi, c'est encore un mérite de l'économie anglaise moderne d'avoir défini la rente foncière comme la différence entre les intérêts du sol le plus mauvais affecté à la culture et ceux de la meilleure terre cultivée, et d'avoir mis en lumière les illusions romantiques du propriétaire foncier, son importance prétendument sociale et l'identité de son intérêt avec celui de la société, identité qu'Adam Smith affirme encore après les physiocrates. Elle a aussi anticipé et préparé le mouvement réel qui transformera le propriétaire foncier en un capitaliste tout à fait ordinaire et prosaïque, simplifiera l'opposition entre capital et travail, la portera à son comble et précipitera ainsi sa suppression. La terre en tant que terre, la rente foncière en tant que rente foncière, perdent leur titre de noblesse et deviennent le capital et l'intérêt, qui ne disent rien, ou plutôt ne parlent que d'argent. La différence entre capital et terre, profit et rente foncière, de même que la différence entre eux et le salaire, ou la différence entre industrie et agriculture, propriété immobilière et mobilière, est une différence historique qui n'est pas fondée sur l'essence même de la chose, un moment qui s'est cristallisé à partir de la genèse de l'opposition entre capital et travail. Dans l'industrie, etc., par contraste avec la propriété immobilière, ne s'exprime que le mode d'apparition de l'industrie et l'opposition dans laquelle elle s'est développée par rapport à l'agriculture. Cette différence ne subsiste comme espèce particulière du travail, différence essentielle, importante et embrassant la vie, qu'aussi longtemps que l'industrie, la vie citadine entre parenthèses, se constitue en se dressant contre la propriété rurale, la vie féodale noble entre parenthèses, et porte encore en elle le caractère féodal de son contraire dans la forme du monopole, de la jurande, de la guilde, de la corporation, etc. Sous ces formes, le travail a encore un sens apparemment social. Il signifie encore la communauté réelle et n'est pas encore devenu indifférent à son contenu. Il n'a pas encore atteint le stade de l'être pour soi, c'est-à-dire l'abstraction de tout autre être. Il n'est pas non plus devenu encore le capital affranchi. Mais le développement nécessaire du travail signifie l'industrie affranchie, constituée pour elle-même comme industrie, et le capital affranchi. La puissance de l'industrie, sur son contraire, apparaît aussitôt dans la transformation de l'agriculture en industrie réelle, tandis qu'auparavant, la propriété foncière laissait l'essentiel du travail à la terre et à l'esclave de cette terre qui la cultivait. Avec la transformation de l'esclave en ouvrier libre, c'est-à-dire en mercenaire, le seigneur foncier se métamorphose en maître d'industrie, métamorphose qui a lieu tout d'abord par la médiation du fermier. Mais le fermier est le représentant, le mystère révélé du propriétaire foncier. Ce n'est que par lui qu'il existe économiquement, qu'il existe en tant que propriétaire privé. Car la rente de sa terre n'existe que du fait de la concurrence des fermiers. En la personne du fermier, le propriétaire foncier s'est déjà transformé en capitaliste ordinaire. Cette transformation doit aussi s'accomplir dans la réalité. Puisque, ou bien le capitaliste pratiquant l'agriculture, c'est-à-dire le fermier, deviendra propriétaire foncier, ou bien c'est l'inverse. Le trafic industriel du fermier est celui du propriétaire foncier, car l'être du premier pose l'être du second. Mais ils se souviennent de leur origine contraire, de leur généalogie. Le propriétaire foncier connaît le capitaliste comme son esclave présomptueux et affranchi. Un ancien esclave enrichi qui le menace en tant que capitaliste. De même, le capitaliste connaît le propriétaire foncier comme le maître oisif, cruel et égoïste d'hier. Il sait que celui-ci lui porte préjudice en tant que capitaliste. Mais il sait en même temps que le propriétaire foncier doit à l'industrie toute son importance sociale actuelle, ses biens et ses plaisirs. Il voit en lui le contraire de l'industrie libre et du capital libre, indépendant de toute détermination naturelle. Cette opposition contient beaucoup d'amertume, et les deux parties se disent réciproquement ce qu'elles ont sur le cœur. On n'a qu'à lire les attaques de la propriété immobilière contre la propriété mobilière, et inversement, pour se faire un tableau suggestif de leur indignité respective. Le propriétaire foncier met en avant la noblesse de naissance de sa propriété, les souvenirs féodaux, les réminiscences, la poésie du souvenir, sa nature romantique, son importance politique, etc. Exprimé dans la langue de l'économie, cela signifie que seule l'agriculture est productive. En même temps, il décrit son adversaire comme un fourbe, sans honneur, sans principe, sans poésie, sans substance, sans rien, comme un être rusé, avide, vénal, trompeur, faisant commerce de tout, dénigrant tout, comme un être porté à la rébellion, dépourvu de cœur et d'esprit, qui est devenu étranger à la communauté et en fait trafic. Usurier, entremetteur, esclave, trompeur habile, c'est un homme sec, responsable de la concurrence, du paupérisme et du crime. Un homme qui provoque, entretient et flatte la dissolution de tous les liens sociaux. De son côté, la propriété mobilière montre les merveilles de l'industrie et du mouvement. Elle est l'enfant de l'époque moderne, sa fille légitime. Elle plaint son adversaire, esprit faible, qui n'est pas éclairé sur sa propre nature. Et c'est tout à fait juste, entre parenthèses. Qui voudrait remplacer la moralité du capital et la liberté du travail par la violence brutale et immorale, et par le servage. Elle le décrit comme un Don Quichotte qui, sous l'apparence de la droiture, de l'honnêteté, de l'intérêt général, de la permanence, cache son impossibilité à se mouvoir, son avidité de plaisir, son égoïsme, son intérêt particulier, ses mauvaises intentions. Elle le traite de monopoliste rusé. Ses réminiscences, sa poésie, son enthousiasme, elle est tempérée par une énumération historique et sarcastique de l'abjection, de la cruauté, de l'avilissement, de l'anarchie, de la révolte, dont les châteaux romantiques furent les officines. La propriété mobilière aurait donné au peuple la liberté politique, brisé les chaînes de la société civile, réuni les mondes entre eux, créé le commerce philanthropique, la morale pure, la culture et ses agréments. Au lieu de ses anciens besoins grossiers, elle aurait procuré au peuple des besoins civilisés et les moyens de les satisfaire. Tandis que le propriétaire foncier, cet accapareur de blé, ce paresseux, ce gêneur, augmenterait les prix des moyens de subsistance élémentaires du peuple, obligeant par là le capitaliste à élever le salaire sans pouvoir augmenter les forces productives. Il entraverait ainsi la croissance du revenu annuel de la nation, l'accumulation des capitaux, donc la possibilité de procurer du travail au peuple et de la richesse au pays pour, en fin de compte, les supprimer complètement. Il provoquerait un déclin général et exploiterait en usurier tous les avantages de la civilisation moderne sans faire la moindre chose pour elle, et même sans rien céder de ses préjugés féodaux. Enfin, lui pour qui l'agriculture et la terre elle-même n'existent que comme une source d'argent qu'il a reçue en cadeau, il n'aurait qu'à regarder son fermier et dire si ce n'est pas un coquin madré, astucieux et plein d'imagination, qui, dans son cœur et dans la réalité, appartient depuis longtemps corps et âme à l'industrie libre et à un commerce bien aimé. Et cela, malgré ses protestations, ses souvenirs historiques et les fins morales et politiques qu'il évoque. Tout ce qu'il alléguerait réellement en sa faveur ne serait vrai que pour l'agriculteur, le capitaliste et les journaliers, entre parenthèses, dont l'ennemi serait bien davantage le propriétaire foncier. Il apporterait donc des preuves contre lui-même. Sans capital, la propriété foncière serait de la matière inerte et sans valeur. La victoire du capital, victoire digne de la civilisation, serait précisément d'avoir découvert et créé une source de richesse qui n'est pas la matière morte, mais le travail humain. Du cours réel de l'évolution découle nécessairement la victoire du capitaliste, c'est-à-dire de la propriété privée développée sur la propriété bâtarde et arriérée sur le propriétaire foncier. De même qu'en général, le mouvement doit l'emporter sur l'immobilité, la bassesse franche et consciente sur la bassesse cachée et inconsciente, et la cupidité sur le goût de la jouissance, de même, l'égoïsme effréné et multiforme des Lumières doit vaincre l'égoïsme borné, bonasse, paresseux et fantaisiste de la superstition. De même, l'argent doit triompher de toute autre forme de propriété privée. Les États qui pressentent le danger de l'industrie totalement libre, de la morale entièrement pure et du commerce pleinement philanthropique, essaient, mais en vain, d'arrêter la capitalisation de la propriété foncière. La propriété foncière, à la différence du capital, est la propriété privée. Le capital, encore entaché de préjugés locaux et politiques. Le capital inachevé, qui ne s'est pas encore dégagé entièrement de son enchevêtrement avec le monde pour parvenir à lui-même. Au cours de son développement et de son expansion dans le monde entier, il doit arriver à son expression abstraite, c'est-à-dire pure. Le rapport de la propriété privée est travail, capital, et la relation de l'un à l'autre. Le mouvement que ces éléments doivent parcourir est, premièrement, unité immédiate ou médiatisée de l'un et de l'autre. Le capital et le travail d'abord encore réunis, ensuite certes séparés et aliénés. Mais s'élevant et se stimulant réciproquement comme conditions positives. Deuxièmement, opposition de l'un et de l'autre. Ils s'excluent réciproquement. L'ouvrier connaît le capitaliste comme sa non-existence et inversement. Chacun cherche à retirer à l'autre son existence. Troisièmement, opposition de chacun à soi-même. Capital égale travail accumulé égale travail. En tant que tel, le travail se décompose en soi et en intérêt propre. Comme ceux-ci se décomposent à leur tour en intérêt et en profit. Entier sacrifice du capitaliste. Il tombe dans la classe ouvrière comme l'ouvrière devient, exceptionnellement, capitaliste. Travail comme élément du capital, comme coût de celui-ci. Donc le salaire est une victime du capital. Le travail se décompose en soi et en salaire. L'ouvrier lui-même est un capital, une marchandise. Opposition réciproque, hostile.